France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quel homme fut le philosophe Michel Serres ? Chères auditrices, chers auditeurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter une année lumière. Une année lumière sans tirer entre les deux mots, ça fera moins loin. Bref, une année lumineuse. Aujourd'hui, nous allons parler de Michel Serres. Michel Serres était connu de tous. Chacun garde en mémoire son visage expiègle, sa faconde, le halo blanc de ses cheveux, ses jeux avec l'ambivalence des signifiants, son souverain mépris pour les frontières disciplinaires, les anecdotes qu'il distillait joyeusement et que son accent gascon pimentait de malice. Je me souviens notamment du jour où, désireux de mettre en garde contre une conception trop pythagoricienne du monde, il raconta cette histoire. Deux jeunes polytechniciens profitent de leurs vacances pour aller camper dans la brousse africaine. Le premier soir, ils dressent leur tente pour la nuit. Le lendemain matin, l'un d'eux, alerté par des bruits étranges, met le nez dehors et voit son camarade courir autour de la tente en étant poursuivi par un lion. Alors qu'il s'affole, l'autre le rassure. « Ne t'inquiète pas pour moi, le danger est plus apparent que réel, car j'ai deux tours d'avance. » Fin de citation. Mais dans son journal, publié peu après sa mort, on trouve des lignes d'introspection étonnantes dans lesquelles, à l'opposé de l'image publique joyeuse qu'il donnait de lui-même, Michel Serres se dépeint comme un homme tiraillé entre la rage furieuse de vivre et la hantise du néant, comme un homme double, scindé en deux êtres, je le cite. D'un côté, je suis l'homme de la joie, du courage, de la force, de l'œuvre accomplie dans un tressaillement suraigu d'allégresse, de l'idée qui vient comme de la grâce, du monde éprouvé comme fortune, de la divine beauté des choses. Et puis de l'autre, je suis l'homme du malheur, de la misère, de l'angoisse et du désespoir, de la solitude invinciblement attachée à la peau, le damné sans pardon, l'errant, le naufragé, l'homme de l'assomption intégrale des abandons, sous le joug d'une culpabilité sans grâce, écrasée, terrassée, minérale. Fin de citation. Qui était donc le philosophe Michel Serres et quelle fut sa vie? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir François Dos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et professeur des universités, auteur d'un livre qui s'intitule « Michel Serres, la joie de savoir » qui vient de paraître chez Plon. Gros livre, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont parlé de Michel Serres, mais vous-même, vous ne l'avez jamais rencontré.
Oui, c'est Michel Serres tel que je ne l'ai jamais rencontré.
Alors que vous êtes un intellectuel, lui aussi, vous auriez dû vous croiser.
On aurait pu se croiser, puisque j'ai fait mes études dans l'université de Vincennes, centre expérimental, où il a enseigné, on y reviendra peut-être, une année à la création même, où il a été appelé par Michel Foucault dans le département de philosophie de Vincennes. Je ne l'ai pas croisé à ce moment-là. Mais je me suis attelé à ce gros travail de parcours, de restituer le parcours de Michel Serres, d'une certaine manière, parce que je ne lui ai pas rendu justice. Comme vous dites, j'aurais pu le croiser, j'ai croisé comme tout le monde, évidemment, à l'écoute des médias, aussi bien radio que télévision, où c'était un bon client. Mais effectivement, dans ma saga des intellectuels en deux volumes, parue chez Gallimard en 2018, je parle très peu de Michel Serres. Il passe sous les radars, alors que Foucault, Derrida, Deleuze, etc., occupent le haut du pavé. Et pourquoi, finalement? Pourquoi? Parce que on définit en France les intellectuels, c'est une définition un peu restrictive des historiens, et je suis pas satisfait de cette définition, mais par le fait qu'ils prennent parti sur la place publique, dans les manifestes, dans les pétitions, dans les engagements, dans les comités, etc. Or, rien de tel. On y reviendra peut-être chez Michel Serres, qui ne s'engage jamais, ni d'un côté, ni de l'autre, et donc il est peu visible visible sur ce plan. Et donc j'avais un peu sous-estimé son importance, et puis je l'ai découvert dans les années 90, puisque j'ai consacré un livre qui s'appelle en 95 l'Empire du sens, qui n'avait rien à voir avec l'Empire des sens, et dont le sous-titre était l'humanisation des sciences humaines. Et là j'ai un chapitre qui est consacré à la galaxie Michel Serres, c'est-à-dire que dans le changement de paradigme des sciences humaines, disons dans les années 90, je vois une configuration autour de gens que vous connaissez bien, Étienne Klein, Bruno Latour, le CSI, le Centre de d'innovation de la sociologie, le CREA que dirigeait Jean-Pierre Dupuis. Toute cette configuration-là, plus pragmatique, analytique, est sortie du structuralisme et se référait fondamentalement à Michel Serres. C'est-à-dire que c'était un peu le maître, en tout cas, on peut dire, même s'ils ont eu quelques frottements, que Bruno Latour était son disciple. Peut-être indiscipliné, mais de toute façon, la notion de réseau, par exemple, chez Bruno Latour, qui est tout à fait fondamentale, puisque le réseau, chez lui, c'est à la fois quelque chose qui est discursif, mais en même temps réel, et en même temps sociétal. L'organisation immanente au réseau entre des éléments hétérogènes, on le retrouve dans la notion, le concept d'interférence, par exemple, qui va singulariser la pensée de Michel Serres. Donc, j'étais conscient de son importance, et puis j'avais déjà été bouleversé en 75 par Feu et signaux de brume, son fameux livre extraordinaire, où il fait la liaison entre l'œuvre de Zola, le Rougon-Macquart, et la thermodynamique, et Carnot. Et là, cette espèce de pont, et ce qu'il singularise évidemment, Michel Serres, c'est le pont entre les deux cultures, la passerelle entre la culture scientifique et la culture littéraire.
Dans ça, on pourrait dire qu'il était engagé. François Doss.
Oui, bien sûr. Forcément,
mais
il n'était
pas un intellectuel engagé au sens classique du terme.
Voilà, c'est ça.
Mais il a mené des combats.
Mais
quand
bien
même.
Sûr qu'il a mené des combats, et on va y revenir.
Et notamment, il a.
Et je dirais même que le combat, un des combats qu'il a mené, qui est jusqu'au bout, et qui, sur lequel, dans la dernière partie de sa vie, il va beaucoup insister, fait qu'il est d'une actualité extraordinaire en ce début du 21e siècle. Et je dirais d'ailleurs, à propos de lui, ce que Foucault disait à propos de Deleuze, lorsqu'il disait que le 21e siècle serait deleuzien, on peut dire aussi que le 21e siècle sera serrien, en tout cas il est déjà sous effet de serre.
Joli. François Doss, vous racontez son enfance, son adolescence, ses années d'études, et vous dites que il a une sorte d'horreur pour toutes les formes de violence.
Oui.
D'où est-ce que ça lui vient? Est-ce que c'est lié à son histoire familiale ou est-ce que c'est lié au fait que il a connu la guerre d'Espagne, la guerre, la libération, l'épuration, la Shoah, Hiroshima, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus personnel?
Il y a les deux. Il avait un frère avec une année seulement de différence. Ils étaient très très liés et à un moment, il le pousse dans l'escalier et il croit qu'il a tué son frère. Et il dit de ce jour, je me suis juré de chasser tout ce qui était violence. Il avait lui-même des accès un peu de colérique, au point d'ailleurs que son père était inquiet, qu'ils ont vu un psy qui lui aura dit, écoutez, conseiller au père de Michel Serres, écoutez, vous prenez votre bouteille de verre d'eau et vous lui jetez l'eau sur lui, ça l'a guéri un peu. Il avait ses pulsions un petit peu comme ça, violentes, contre lesquelles il considérait qu'il devait lutter. Et puis évidemment, tout jeune, il a connu la violence historique, la tragédie historique, puisqu'il est né en 30. Il est né en 30 à Agen, et l'année. Dit-il, je suis né d'Agen, du 15 d'Agen, parce que c'est l'année
où Agen
était sacré.
En rugby. Pour la première fois.
Oui, pour la première fois.
Je vous ai lu.
Champion de France. Et là, il était d'une fierté absolument extraordinaire, pour vous dire à quel point il était derrière l'équipe de rugby d'Agen.
Toute sa vie.
Qu'il avait peint quand il est allé à Vincennes, il s'est installé à Vincennes, où il a acheté une maison. Eh bien, il a peint le grillage de sa maison aux couleurs du club du SUA d'Agen. Il est né en 1930 et on est dans le sud-ouest, on n'est pas loin de l'Espagne. La guerre d'Espagne commence en 36, hein. Et donc il commence à voir des réfugiés espagnols qui arrivent. Et puis ensuite en 40, c'est l'exode. Et il voit des Belges qui redescendent au point d'ailleurs que ses parents vont adopter des enfants, une famille, et il va avoir comme ça, ils sont déjà trois enfants, ils vont se retrouver sept, quatre frères et sœurs belges. Donc il va voir le drame de cette violence, qui est d'ailleurs pour lui quelque chose qui va fondamentalement le marquer, comme vous le savez. Et puis alors, avant de passer à Hiroshima, qui va être majeur, après dans sa réflexion, je dirais que sa famille a été, comme beaucoup de familles, divisée. C'est-à-dire que son père, par exemple, était très, très pétainiste. Une de ses grands-mères était plus que pétainiste. On a des doutes. Le fils de cette grand-mère a été condamné à 6 mois de prison. À un moment, les FTP recherchaient le père de Michel Serres, qui a dû se cacher, etc., dans ses terres à proximité. Donc, il y a là quelque chose qui, dans la guerre, lui a montré que qu'on prenne parti pour un camp ou un autre. Il faut éviter l'affrontement. Et d'où un évitement chez lui qu'on va retrouver tout au long de sa vie par rapport aux politiques.
Et vous parlez longuement de ses relations avec son père, François Dos. Oui. Son père était marinier.
Tout à fait.
Et son père n'aimait pas que son fils Michel lise. Il pensait que lire, c'était
exactement
une activité de fainéant. Mm. Et bien plus tard, quand il fera sa thèse sous la direction de Georges Canguilhem, Canguilhem va visiter la famille de Michel Serres et son père va dire à Canguilhem « Ah, vous êtes donc ce salaud qui m'a pris mon fils ».
Tout à fait. Et effectivement, ce sera un des éléments de tension très fort chez Michel Serres, qui a une grande admiration, une adoration de son père, qui s'est engagé dans la guerre à 17 ans, qui
la
a
première.
Été la première guerre, la grande guerre, qui a été gazé, qui a été marqué à vie, qui s'est, dans les tranchées, converti au christianisme, au catholicisme, et qui s'est fait tout seul. C'est-à-dire que Michel Serres avait tendance à exagérer, comme un peu sur tous les domaines. Il disait, il s'en faisait gloire, hein. Il n'était pas du genre à avoir honte de ses origines populaires, mais il les avait encore. Il disait, mais je suis un fils de prolétaire, de paysan. En fait, pas du tout. Son père est un chef d'entreprise, qui est un dragueur sur la Garonne.
Un marchand de sable.
Marchand de sable, comme on dit dans le coin. Et surtout, il prenait les graviers pour construire les routes et construire les maisons. Et il avait une bonne petite entreprise avec des ouvriers, il avait des terres et un fermier qui s'occupait des terres. Donc c'était un notable, en fait, d'Agen. Mais qui s'est fait tout seul. Et s'est fait tout seul et voyait dans son fils aîné, c'est-à-dire Michel Serres, celui qui allait reprendre ce qu'il avait bâti. Il projetait sur son fils aîné le fait qu'il devait absolument reprendre. Or, très vite, Michel Serres étant excellent dans toutes les disciplines, aussi bien littéraires que scientifiques, prêtre, très orel, parce qu'il est dans une éducation religieuse, là, il est tôt initié au grec et au latin, et puis ensuite lui a dit, mais voilà, ça a été, sur le plan des humanités, tu es prêt, maintenant, passe mathélem, et mets-toi aux sciences dures. Donc il a effectivement très vite la double culture, il a d'excellents résultats, contrairement à son frère cadet, qui a de très mauvais résultats et qui est fier de son frère. Il a dit, c'est assez drôle, plus tard, puisque Michel Serres va faire une centaine de livres, va écrire, publier une centaine de livres, et son frère disait, il amenait ses livres chez un relieur à côté de chez lui, et il les mettait dans sa bibliothèque, et quand il avait des invités, il disait, vous voyez, les livres de Michel, je ne les lis pas, je les relis. C'était une famille à l'écart de la culture. Et là, il était obligé de se battre pour continuer. D'ailleurs, chaque année après le bac, il monnayait finalement la poursuite de ses études. Son père disait, maintenant tu vas prendre ma succession.
Il disait un an de plus.
Il disait, non, je veux encore un an, etc. Et d'où d'ailleurs, il a fait naval. Alors, il a fait naval pas parce qu'il aime la mer, parce que, effectivement, son père étant marinier, lui voulait être marin, et était aspiré vers le grand large. Mais il y avait aussi l'autre raison, qui était que les études étaient payées, et qu'il pouvait, comme ça, gratter un an,
sans
deux ans.
Sans culpabiliser.
Hein, bon. Et sans culpabiliser, sortant major, et quand il a vu où menait Naval, il a tout de suite démissionné parce que il a compris qu'il s'agissait de faire la guerre. Et là, ce qu'il dira plus tard, et il le dira en disant que c'est l'unique objet finalement de sa philosophie. Il est le fils d'Hiroshima parce que, et c'est évidemment c'est quelque chose qui, et vous contrairement à moi, vous avez bien connu Michel Serres et vous pouvez bien le comprendre sur ce plan, c'est qu'il a vu comment la science qui doit conduire à l'émancipation humaine, a été instrumentalisé comme instrument de mort, ce qu'il a thématisé comme la thanatocratie, cette relation incestueuse entre le pouvoir et le pouvoir mortifère.
On va en reparler, François Dos, mais avant, je voudrais qu'on revienne à cette relation avec son père, qui était en quelque sorte son antiparticule. Et quand son père est mort, en 63. Donc, Michel Serres avait 33 ans. Mmh. Il a été complètement dévasté. Point de faire une sorte de dépression.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Dites même qu'il a traversé dans son enfance et son adolescence des phases bipolaires.
Oui, oui. Sa fille Hélène raconte qu'il apprend la mort de son père, il est à Clermont-Ferrand. Et vous voyez, Clermont-Ferrand, Agen, ça fait quand même une petite route. Il pleure sans arrêt. Il ne cesse de pleurer pendant tout le trajet. Il était presque dans l'idée. Il écrit... dans ses carnets de formation, tu étais ma fierté. Enfin, il perd une assise très grande. Alors,
avec sa mère, c'est autre chose.
Là où vient son. Alors, donc, effectivement, il est là dans une période dépressive. Il en connaîtra beaucoup de périodes dépressives. Il y a un côté effectivement cyclothymique où il passe d'un état extatique à un état de désespoir, comme vous l'avez manifestement cité. Et d'autre part, moi, ce que j'ai découvert dans l'enquête, c'est que le rapport, il y a un manque initial, dirait Lacan, chez Michel Serres, c'est le manque de l'amour maternel. C'est-à-dire que il définit dans ses carnets de formation sa mère comme l'exemplification de la sclérose. Bon, c'est pas particulièrement roboratif. Et mon enquête me montre que ça ne lui était pas adressé à lui, que cette sclérose était la même avec son frère et sa sœur. Donc c'est l'incapacité, en tout cas dans un premier temps, ensuite elle sera un petit peu différente avec ses petits-enfants, mais incapacité à concevoir son rôle de mère autrement qu'en mère autoritaire. Et là, il y a un manque d'affection qu'il le poursuivra toute sa vie, c'est-à-dire qu'il fait sa fragilité, et je suis un peu discret là-dessus, mais ce qui fait son insatisfaction de ses rapports aux femmes pour toute sa vie. Parce que effectivement, cette image maternelle, c'est une image de manque, qui le renvoie à une absence.
Donc un besoin de séduction auprès des femmes.
Absolument.
Avant de parler des choses plus graves, parlons du rugby. Parce qu'il définit le rugby comme un savoir. Est-ce qu'il a lui-même joué au rugby ?
Il a lui-même joué au rugby. Il a une carte. Dans le livre, dans le carnet photo, il y a sa carte de joueur du club. C'est pas un mastodonte, hein, mais il est assez puissant quand même. Donc il joue troisième ligne. Il joue dans le club d'Agen, jeune. Et ensuite, il devient le supporter de l'équipe, jusqu'à rentrer d'ailleurs sur la fin, après une finale perdue, dans l'académie qui sera créée à Agen. L'académie dont il est particulièrement fier, encore plus que l'Académie française. Et j'ai trouvé dans les archives des lettres qu'il envoie à l'équipe, et aux journalistes joueurs professionnels qui couvrent les matchs de l'équipe de France. Et il n'est pas content du tout du traitement qui est fait, par exemple, des joueurs d'Agen. Il est très proche d'un Pierre Lacroix et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je défends un certain style qui est le style des gazelles que représentent les joueurs d'Agen contre les légions romaines de Béziers et vous semblez...
Ouais, c'est un supporter, quoi.
Et c'est un supporter absolu, et qui donne des leçons aux journalistes pour dire qu'ils sont passés à côté des véritables enjeux du rugby. Il est alors le rugby, c'est un bon exemple chez lui de quelqu'un qui aime bien. Alors c'est pareil sur l'alpinisme avec les contraintes de la cordée en haute montagne. Il aime bien ou les batailles de Polochon quand il était scout. Il aime bien cette solidarité, cette fraternité en acte, ces moments où voilà, on dépend des autres et on est complètement à l'unisson.
Et où il y a des contacts physiques entre les joueurs.
Voilà. Et cette solidarité, il est à la fois solidaire et il aime ces situations de solidaire. Et en même temps, c'est un solitaire. Et il dira par exemple à son ami... qui dirigeait Michelin, le Miraton, il dira « Je crève de solitude ». Alors qu'il est très entouré, comme vous le savez bien. Il est très entouré, mais il crève de solitude. Et pour lui, là aussi, c'est une tension. Doit-il être totalement solidaire des autres ou totalement solitaire ? Il est dans l'entre-deux. Et au début, il a voulu, au grand désespoir de son père... Il a même voulu être moine, parce que c'est aussi un autre élément de ces tensions, c'est que il a voulu rentrer chez les bénédictins. Et moi, l'hypothèse que je fais, et tout me montre dans ses archives, que c'est un peu un mystique moderne. C'est-à-dire que il est travaillé par la foi, il est travaillé par la croyance. Et en même temps, pas du tout pratiquant. Ses enfants, bien, on l'a jamais vu à la messe. Donc, très distant de l'institution ecclésiale, mais avec ce désir de contact direct avec la divinité. Il dira d'ailleurs, quand je termine un article, je n'aime pas mettre le mot « fin », je préférerais mettre « merci ». Il est écrit plus qu'il n'écrit. Vous voyez, cette croyance mystique...
Mais est-ce que vous diriez, François Doss, qu'il était mystique ?
Oui, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il le dit lui-même. Il y a certains côtés. Je cite des moments où il dit je me conçois pas tellement comme un intellectuel. Je mal dans cette fonction d'intellectuel. Je suis un mystique. Je crois que alors sur la fin, il va effectivement re-rentrer dans le rang puisque il demandera pour son épouse et pour lui l'extrême onction. Donc il va revenir dans le giron catholique qui était le sien dans sa famille, mais tout au long de sa vie, pas du tout. Il est dans une espèce de d'ouverture. C'est ainsi qu'il conçoit sa philosophie, d'ouverture à l'ensemble du monde, à l'ensemble des civilisations, à l'ensemble, il faut faire le tour du monde. Alors là aussi, c'est un autre effet de tension chez lui, extraordinaire, et qu'il vit très durement, très très durement. C'est, pour reprendre des concepts un peu deleuziens, la territorialisation et la déterritorialisation. Comme vous le savez, il est très ancré à Agen, dans la culture du Sud-Ouest, dans cette culture cathare, de troubadour, de séduction et autres. Et en même temps, il va quitter Agen. Et son rôle de est enseigner, faire des conférences un peu partout.
Voyager.
Et notamment aux États-Unis avec René Girard à Stanford, mais un peu partout dans le monde. Et c'est sa mission. Il sortira d'ailleurs un livre sur justement ce devoir de faire le tour du monde. Donc il est obligé évidemment de se déplacer, de partir sans arrêt. Et il écrit « J'adore et je hais ». Les déplacements. Et mon enquête me montre que à chaque fois qu'il se déplaçait, départ ou d'arrivée, prendre un train, prendre un avion, il avait besoin d'être accompagné. Et parfois, il allait même au-delà. Il demandait à deux personnes de l'accompagner. Parce que, comme me l'a dit Florence Ainuel, il avait là une espèce de névrose expérimentale, disait-il, qui était ce désir de déplacement et cette incapacité de...
Alors, on va parler d'Hiroshima, mais il se déguisait, vous le citez, enfant de Hiroshima, fils de Majorana. Je vis et je pense comme un enfant de la guerre, héritier de la bombe. Majorana, alors je me permets d'en parler à l'antenne parce que je lui en ai parlé directement. Ettore Majorana, c'est un physicien sicilien qui est né en 1905, qui a disparu en 1938. Il a annoncé sa disparition. Ça ne veut pas dire qu'il s'est suicidé, mais il a pas laissé de traces.
Il a perdu ses traces.
Et Michel Serres reprenait à son compte la thèse de Leonardo Sciascia, qui laissait entendre que Majorana avait eu l'idée que la bombe était inéluctable et avait quitté, en somme, l'humanité, ou en tout cas avait cessé de la fréquenter, au motif que la science allait accoucher de quelque chose de terrible. Bon, cette hypothèse ne tient pas la route. J'en ai discuté avec Michel Serres, mais il continue à dire cette légende. Majorana n'a pas du tout intuité la bombe, il a disparu sans qu'on puisse dire ce qu'il est devenu, mais en tout cas pas pour des raisons liées à cela. Mais il y a un côté là, beauté de la légende qu'il se réapproprie alors que
on peut pas la toucher quelque chose de juste, hein, c'est-à-dire que Michel Serres est aussi un conteur, comme vous savez bien. Ouais. Il adore la mise en intrigue, le récit. C'est pas pour rien qu'il a beaucoup travaillé La Fontaine. Et donc il se raconte effectivement des histoires. Il aime bien broder, il aime bien enrober, il aime bien tout d'ailleurs son succès extraordinaire dans ses conférences. Hein. Il était un grand séducteur de public extrêmement large. Bon, cela dit, sur Hiroshima, là, ça va être absolument déterminant parce que ça va conditionner son renoncement et son renoncement difficile à la mer qu'il adore pour finalement la philosophie. Il va falloir qu'il travaille pour lui, il le sent comme une mission, une nécessité. Il travaille sur cette relation que j'appelais incestueuse entre justement le pouvoir et puis la science et donc d'essayer de comprendre et d'essayer de contrebattre ce pouvoir thanatocratique. Et c'est un des sens fondamentaux de sa vie, de son œuvre, fondamentalement cette œuvre, cette mission plus que fonction de pacification pacifiste, de vouloir la paix. Par moment, d'ailleurs, en édulcorant les différends, pour employer un concept de Jean-François Lyotard, qui peuvent opposer les cultures, les peuples, les civilisations, et de valoriser. Par exemple, il a extrêmement valorisé le fait qu'on avait créé un univers de paix avec l'Union européenne. Que dirait-il aujourd'hui, où la guerre...
Non, mais il disait aussi que toute paix était un entre-deux-guerres.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il était conscient du tragique.
Que la violence pourrait pas être éliminée.
Bien sûr.
Et que c'était miraculeux qu'on ne la voit pas trop en Europe.
Absolument. Comme de la même manière, grand philosophe de la communication qu'il est, il n'y a pas de communication sans parasitage de la communication, sans chaos dans le communicationnel. Et donc, effectivement, il y a une internalisation des deux et il faut pacifier tout le rugby, d'ailleurs. Le rugby, et il met... L'accent là-dessus, moi aussi, ça m'a éclairé sur le fait que, par exemple, la violence est très forte chez les supporters de football. Vous ne verrez pas de violence chez les supporters de rugby, parce que le sport lui-même
est
régulé.
Il est violent.
Il est violent. Et en même temps, il régule la violence.
Mais il se trouve que j'ai assisté à un match de rugby à la télévision, en compagnie de Michel Serres et de quelques autres amis. On avait coupé le son. Et c'est Michel Serres qui faisait les commentaires.
Oui.
Et il expliquait le rugby comme une sorte de thermodynamique hors équilibre.
Oui.
Le jeu, ça consiste à amener de la force là où elle manque chez l'adversaire, de la puissance là où elle manque, de la masse là où elle manque, et de jouer sur les déséquilibres.
Mm-hmm.
Et donc il avait une lecture presque scientifique des règles du rugby.
Oui.
Et ça faisait des commentaires... d'une richesse qui manque parfois. Donc.
Non, mais moi j'ai vu y compris des Christian Lanta, par exemple, qui a longtemps entraîné l'équipe de rugby d'Agen, m'a dit que alors non seulement Michel Serres, quand il était, y compris aux États-Unis à Stanford, malgré le décalage horaire, débriefait les matchs au téléphone avec Christian Lanta tous les dimanches, et puis il le rappelait en lui disant, dis donc, j'ai oublié de te poser cette question sur pourquoi cet essai, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et Christian Lanta de m'expliquer que il était aussi à l'écoute de Michel Serres, qui lui donnait des conseils. Par exemple, pour vous donner un exemple, à un moment, l'équipe d'Agen a recruté des Iliens, des grands joueurs des îles, des Fidjiens, etc. Et Christian Lanta avait des problèmes avec les Iliens pour il trouvait que leur jeu était trop individualiste, pas assez collectif. Et là-dessus, il m'a dit, mais le commentaire de Michel Serres m'a été très éclairant. Il lui a dit, écoute, il faut que tu comprennes, Christian, que ce sont des exilés. J'ai connu l'exil toute ma vie. Hein, un exilé, on doit lui dire où il faut se poser. Hein, et donc, voilà.
Là, vous imitez son accent, mais ça a fait son succès de conférencier, mais il a été... humilié.
Oui.
À cause de son accent, notamment à l'école normale.
Oui, oui. Alors, il raconte, j'ai peine à croire tellement, effectivement, on a tous aimé cet accent du sud-ouest de Michel Serres. Il disait qu'au début, il était non seulement humilié, pire qu'un Iroquois en terre persane, mais qu'on ne le comprenait pas. Et vous savez qu'une de ses humiliations dont il est très fier, c'est qu'il a été promis à l'agrégation de philosophie et il a été dégradé. Le président du jury lui dit, écoutez, Michel Serres, vous comprenez vous n'êtes pas exploitable
au-dessus
de l'Hexagone.
Au-dessus de la Loire, c'est pas possible. Mais pourtant, les accents étaient plus nombreux à l'époque.
Oui.
J'imagine qu'ils pouvaient quand même se faire comprendre en vous racontant
que... Bien sûr.
Il y a des phrases qu'on l'obligeait à répéter.
Oui, mais pour rigoler. Bon.
Les années qu'il a passées à l'école normale n'ont pas été heureuses.
Non, elles n'ont pas été heureuses parce qu'il arrive en 52 à l'école normale sup. Et on est à un moment, comme vous pouvez vous situer, 52, on est en pleine période stalinienne. Donc les intellectuels là, sont plutôt de gauche et beaucoup marqués par le Parti communiste. Or, on est en pleine période de Jdanov, de Lysenko. Il sait assez les sciences pour comprendre que le lysenkisme, la mise en cause des lois génétiques, ça passe pas. Et là-dessus, il se tient à distance. Il dit d'ailleurs que il s'est réfugié un peu dans l'épistémologie.
Parce que là, il n'y a pas de débat.
Ouais. Oui, parce que pour se tenir à l'écart du politique.
Et François Dosse, vous racontez une anecdote incroyable. Louis Dobreuil, prix Nobel de physique, est invité à donner une conférence à l'École normale supérieure, 1953, je crois. Et voilà comment Michel Serres raconte la scène. Les élèves de philo se sont mis à le chahuter à mort, interrompant la conférence, parce que pour eux, marxiste déterministe, il était l'un des apôtres de l'indétermination de Heisenberg. Il était donc un ennemi de classe, un réactionnaire à qui il fallait faire la peau. J'ai vu Louis Dobreuil partir penaud, protégé par deux ou trois personnes, sous les huées des étudiants, Althusser en tête. C'est quand même incroyable, ça. Comment est-ce qu'on peut être aussi intelligent et aussi bête?
Oui, oui. Non, mais c'était l'esprit de l'époque, hein. Vous savez bien que, je sais pas, la psychanalyse était donnée comme une science bourgeoise, totalement proscrite, même la sociologie était regardée d'un très mauvais œil, par ce qu'on appelait à l'époque le diamat, hein, la dialectique matérialiste, et très stalinisée de l'époque, et puis la nouvelle critique prenait garde justement de toute dérive par rapport à la doxa. Donc oui, il a été. Mais dans l'enquête, j'ai découvert des choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Par exemple, je me disais, mais Althusser, puisque vous l'évoquez là, était du côté du marxisme-léninisme de l'époque. Et pourtant, j'ai découvert des lettres
d'Althusser.
Très attentif, très affectueux, très attentif sur la santé de Michel Serres, lui disant de se reposer, qu'il pouvait compter sur lui pour faire n'importe quoi, pour qu'il retrouve et recouvre sa santé mentale.
Rester à jeun et sécher les cours.
Voilà. Alors que, effectivement, de rester à jeun, parce que c'était, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais le trajet à Jeun-Paris était un trajet long, fatigant, qu'il était obligé de faire, et il l'incitait au repos. Il l'encourageait sur ses capacités intellectuelles, etc. Donc il y avait en même temps un rapport d'affection, alors que on peut dire que sur le plan épistémologique, ils sont aux antipodes, puisque, comme vous savez, le premier travail universitaire de de Michel Serres sera sous la direction de Gaston Bachelard, sur les modèles mathématiques. On est au moment de la révolution que vous connaissez bien, du groupe Bourbaki, dans les mathématiques. Ça bouge, il est très fasciné par ça. Et il va finalement... petit à petit, au grand désespoir de son maître Canguilhem, il va prendre ses distances avec la notion de rupture épistémologique, qui est, comme vous le savez,
donc avec la
Bachelard, devenue la coupure épistémologique. Coupure, y compris entre les deux Marx. Donc, il y a durcissement de la rupture en coupure. Et lui va prôner, tout en disant que Bachelard avait un rôle important, qu'il a poétisé la science et qu'il a scientifisé la poésie, eh bien, il va prendre ses distances avec Bachelard et préconiser une épistémologie non bachelardienne et un nouvel esprit scientifique. Il va reprendre le titre de Bachelard, nouvel esprit scientifique. Non, non, il faut un nouvel esprit scientifique.
François, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que sa philosophie consiste à viser une théorie de la raison qui s'inspire plus des mathématiques que de la littérature? Et que finalement, faire de la philosophie, c'est s'oublier un peu, c'est-à-dire c'est cesser de se répandre en confidences subjectives, c'est d'abord comprendre finalement.
Je dirais pas ça, parce que...
Parce que ce que je dis là, c'est plutôt la philosophie de Cavaillès, Jean Cavaillès.
Non, parce que il y a chez lui et tout du long, et ça on le voit dans ses cahiers de formation, l'idée d'écrire un roman. Il y a une très grande estime de la littérature comme devancière, y compris par rapport aux sciences. Et ça, ce sera une constante chez lui, de voir des intuitions dans l'art, que ce soit Turner, que ce soit dans la littérature, par rapport à la science. Et d'ailleurs, lui-même a pour ambition d'être reconnu comme écrivain, manifestement, et de travailler stylistiquement. S'il répond à une assaise. Il y a une assaise chez lui toute sa vie. Vous savez que il passait toutes ses matinées, il se levait très très tôt, vers 5-6 heures du matin, il se mettait à sa table de travail, et il fallait pas le déranger jusqu'à midi, 1 heure. C'était l'assaise de l'écriture. Et il voulait devenir écrivain et non pas écrivant, pour reprendre le distinguo de Barthes. Hein. Bon. Et il sera d'ailleurs presque reconnu, puisque deux reprises, peu avant sa disparition, il va, je dirais, aller en finale du prix Nobel de littérature. Il a failli être nobélisé comme prix de Nobel de la littérature. Or, il n'y a qu'un seul philosophe qui l'ait eu en France, c'est Bergson. Voilà, c'était là, il aurait jubilé parce que c'était véritablement son ambition.
François, dans votre livre, vous donnez des extraits de dissertation qu'il a rédigé pour préparer l'agrégation. Et là, il y a un style en effet remarquable, mais après, il a un style qui est devenu plein d'emphase, d'hyperbole, d'obscurité.
Ah, mais c'est son style.
Et qui est parfois incompréhensible.
Non,
semble-t-il.
Non, je dirais pas ça. Il y a des problèmes d'intelligibilité, c'est vrai, parce qu'il a abandonné au fil du temps ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est-à-dire plus de notes de bas de page.
Plus de citations.
Plus de citations, plus de notes de bas de page. Alors c'est vrai que ça rend parfois la lecture difficile, mais vous pouvez pas dire qu'il est, au contraire. Son but, c'est d'éviter le langage abscon et d'être dans la lignée, disons, je dirais, de la philosophie. D'ailleurs, il va écrire un éloge de la philosophie française et des philosophes français dans une filiation qui est celle de philosophes français qui sont justement près de la littérature, qui n'ont pas coupé le cordon ombilical avec les littéraires. Il est là un héritier de Montaigne, et ça renvoie à sa région d'ailleurs, et davantage que d'un Heidegger, un Husserl, qui emploie un langage proprement du corpus philosophique, qui lui est un obstacle à la lecture.
Mais quelles sont, François Doss, ses relations avec les autres philosophes du moment? Je pense à Foucault, Canguilhem, qu'on a cité, Deleuze, Derrida. Il y a quand même beaucoup de brouille, parfois des détestations.
Oui, tout à fait.
On a l'impression que presque ils se détestent tous.
Oui. Alors, il y a la rivalité. Il y a la rivalité, évidemment. Vous posez une bonne question, parce que j'ai découvert là, justement, ce qui fait peine, parce que c'était des gens qui étaient terriblement proches. Vous évoquiez tout à l'heure Canguilhem, qui dit à son, qui se fait dire par le père même de Michel Serres, vous m'avez volé mon fils. Donc, dans la dédicace à la thèse, Michel Serres dit, vous vous occupez la place du vide, c'est-à-dire de la mort de son père. Donc, il y a effectivement une projection, la paternelle, très très forte. Or, la soutenance de thèse, c'est extrêmement mal passé, au point que, et c'est rarissime, Michel Serres, malgré tout le travail qu'il a réalisé sur Leibniz, a failli lever le siège,
quitter
la soutenance, et il s'est retenu en disant « j'ai des enfants à nourrir, et donc je ne peux pas me permettre ».
J'ai un poste, mais il a écrit une lettre ensuite.
Mais, oui, il a écrit une lettre terrible, donc ça a été la rupture radicale avec celui qui était son père spirituel. Deuxième exemple, il est prof à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, vous avez Jules Villemain, qui fait des soirées, sa femme dans la répartition sexuelle du travail prépare de bons repas, et puis après les repas, ils font des séances d'épistémologie sur Platon, sur Pascal. Vous avez là Marin, vous avez là Pierre Magnard, Joly et autres. Et puis Villemain. Et Villemain va publier un bouquin qui est la philosophie de l'algèbre. Et là, il s'est senti pillé.
C'est les idées qu'il avait.
Michel Serres. Il considère que Villemain l'a absolument pillé.
Et Villemain devient prof au Collège de France.
Et il devient, tout à fait, vous savez, il devient tout de suite, grâce à ce travail, prof au Collège de France. Et pour dire à quel point il a un ressentiment terrible, Michel Serres, il écrira ensuite que, à propos de l'algèbre et des mathématiques, Villemain enseignerait, je le cite, mieux le papou. Hein, donc vous imaginez que vous écrivez ça, vous faites pas tout à fait un ami.
Mais ensuite, en matière de vacherie, Foucault, avec Sartre, Foucault d'abord.
Alors Foucault, il était très lié à Foucault, et là j'ai le témoignage de Pierre Magnard. Foucault était parisien, enseigné à Clermont, et Magnard et Serres l'accompagnaient à la gare toutes les semaines. Et discutaient de quoi dans le début des années 60, de ce que sera Les mots et les choses, qui vont être le grand best-seller en 66 de Michel Foucault chez Gallimard. Et Foucault sera surtout très connu à propos des mots et les choses, comme le philosophe du structuralisme autour de la mort du sujet et du thème de la mort de l'homme. Or, quand vous reprenez les cahiers de formation, vous avez un Michel Serres qui met l'homme est mort en 63. Et donc là aussi, il s'est senti pillé par Michel Foucault. Et alors qu'ils étaient très liés. Alors, ils continuent à être liés quand le centre expérimental de Vincennes se crée en 68. Foucault l'appelle au département de philo. Il y restera un an. Là, ils sont en complet désaccord sur le type de gestion. Alors, on n'a pas le temps.
Mais ils se parlent.
Et ensuite, revient aux oreilles, évidemment, de Michel Foucault, l'idée que il l'aurait pillé. Et donc, rupture, là. Rupture qui va avoir des conséquences qui vont encore aggraver le ressentiment d'un Michel Serres, puisque Michel Serres, par exemple, en 75, sera soutenu par Lévi-Strauss, ce qui n'est pas rien, pour être au Collège de France. Qui va s'opposer à son élection? Michel Foucault. Et à un moment, d'ailleurs, Régis Debray, que j'ai été voir, parce que j'ai mené aussi un grand travail d'enquête auprès d'une centaine de personnes, dont vous d'ailleurs, pour me restituer ce personnage que je n'ai pas connu, eh bien, Régis Debray de me dire, Michel Serres, avec lequel j'étais assez copain, me dit, tu pourrais pas dire à Foucault, quand même, etc., ma candidature. Et il en a parlé à Foucault, qui a dit « jamais ». Il le détestait, et Pierre Nora, d'ailleurs, dans ses mémoires, dit qu'il ne l'a pas publié chez Gallimard parce que Foucault aurait été fou de rage qu'il publie Michel Serres tellement il le détestait.
Mais il y a quand même des affaires de jalousie.
C'est une affaire de jalousie. Et, par exemple, j'ai eu aussi, dans mon enquête, attestation que, à un moment, s'est profilé un poste à l'ENS, à Normale Sup, bon, à la place Derrida quittant Normale Sup. Derrida aurait pu effectivement assurer l'élection de Michel Serres, il n'en a rien été. Alors qu'ils étaient aussi très liés. Et là, c'est la géométrie que n'a pas digéré l'œuvre sur la géométrie de Michel Serres que n'avait pas digéré Derrida.
Une dernière citation à propos de Sartre.
Oui, alors Sartre.
Michel Serres écrit « Il ne suffit pas d'écrire au café pour épouser son siècle.
Voilà.
Aveugle et sourd à la totalité de ses nouveautés, Sartre n'a rien pressenti de ce qui basculait autour de la guerre, alors qu'un nouveau monde apparaissait qui reléguait l'ancien aux âges de pierre. »
Oui.
Alors, c'est là, vrai que Sartre parle très peu de science.
Oui, c'est ça. Non, mais à un moment, d'ailleurs, Sartre se fait gloire de ne rien connaître aux sciences dures, et considérant que les sciences ne pensent pas. Donc, effectivement, c'est une bêtise absolue. Mais là, oui, Michel Serres l'épingle pour être celui qui... D'abord, s'est trompé de moult fois dans ses engagements politiques, et deuxièmement, tient à distance les deux cultures, entre la culture scientifique et la culture littéraire. Vous savez que il aimait aussi à dire qu'on avait fait une belle bêtise dans la région parisienne, puisque vous avez les scientifiques au sud de Paris, à Orsay,
Paris-Saclay,
et on a créé... à l'autre extrémité, dans l'extrémité nord, le campus du Condorcet, où on met les littéraires et les sciences humaines. Et,
pour être sûr qu'elles ne se parlent pas.
Sert d'assurer qu'on avait Orsay, maintenant on a les Condorcets.
Il y a quand même un côté engagé dans Michel Serres, dans le fait qu'il fait l'éloge du corps.
Ah oui,
ce qui n'est tout de même pas très banal à cette époque chez les philosophes.
Non, tout à fait. De toute façon, rien n'est banal chez Michel Serres.
On pense avec les pieds, disait-il.
Et vous pensez, on pense avec les pieds. Et il a fait un bouquin que vous connaissez bien, qui est « Les professeurs de gymnastique m'ont appris à penser ».
Le livre s'appelle « Variations sur le corps ».
Variations sur le corps, mais il a fait un petit livre d'entretien sur, effectivement,
les professeurs de gymnastique. Il fait aussi l'éloge des guides de haute montagne.
Voilà, et tout à fait. Et donc, pour lui, d'ailleurs, il explique que quand c'était un grand marcheur. Non seulement il faisait de la haute montagne, mais il faisait le GR, il fait 20 km de Vincennes, puisqu'il habitait Vincennes, toutes les semaines. Il traversait Paris avec ses chaussures de marche, son sac à dos. Il venait ici à l'émission de Michel Polaco, de France Info, qui a duré 14 ans, hein, pendant 14 ans.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines. Alors, vous savez, l'histoire dont il est la plus fière, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'à un moment, il prend un taxi à Paris. Et puis, le chauffeur de taxi, qui est un black, ne se retourne pas, mais entend son accent. Commentaire du chauffeur de taxi, « Je reconnais mon professeur de philosophie du dimanche. » Et donc, alors là, il a dit, bon, là
c'est gagné.
Je suis justifié devant l'éternel.
Il était parfois reconnu dans la rue. Il nous avait raconté un jour que il voulait montrer que la puissance focale que braque la télévision sur le présent se fait au détriment du passé. Et donc, il nous raconte qu'un jour, une dame l'interpelle dans la rue. « Monsieur, lui dit-elle, je vous reconnais, je vous ai vu dans le poste, vous êtes Hubert Reeves. Désolé, madame, vous faites erreur, je m'appelle Albert Einstein. » Ah bon ? Albert Einstein, je connais pas.
Il a un grand sens de l'humour. Mais parmi ces... on parlait d'engagement, il faut quand même ne pas louper un engagement qui est majeur et qui fait que il est d'une actualité, ce début 21e siècle, tragique et très importante, et son œuvre est à labourer et incontestablement, c'est que à partir des années 90, il va terriblement s'engager sur le terrain de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, de l'écosystème et de la lutte contre toutes les formes de pollution. Ça va commencer en 90 par un livre qui s'appelle Le Contrat Naturel, se continuer par un autre livre qui s'appelle Biogé, un autre livre qui s'appelle Le Malpropre, un autre livre qui s'appelle La Guerre Mondiale, non pas la guerre mondiale au sens traditionnel du terme, mais la guerre contre le monde, menée par les hommes, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire s'effondrer leur soubassement et la nature. Et là, c'est d'ailleurs quelque chose que Althusser avait dit à Régis Debray. Il avait dit Michel Serres, suivez ses cours, parce que en histoire il est pas bon, par contre c'est un grand philosophe de la nature. Et c'est vrai que là, Althusser avait eu juste. Et cette préoccupation sur la nature est devenue ensuite dominante, au point que il a été devancié dans son livre de 90, Le Contrat Naturel, qui doit parfaire le contrat social, où il propose une solution qui est une solution juridique, c'est-à-dire de transformer la nature en sujet de droit.
Mais alors, il a été très attaqué pour ça.
Alors, il a été très attaqué. Luc Ferry a dit que c'était absolument une mise en cause de l'humanisme, c'est scandaleux, etc. Bon. Paul Ricoeur avait... n'a pas été aussi violent, mais il avait des réticences. J'ai vu, avant qu'il meure, Robert Badinter, qui lui aussi a eu des réticences. Il m'a expliqué, Michel Serres, c'est un bon copain, c'est un grand poète, grand philosophe, mais un piètre juriste. La nature peut pas être un sujet de droit. Cela dit, j'ai vu Laurent Fabius qui a effectivement sollicité pour la COP21 dont il était responsable, Michel Serres, et qui me dit non, son idée est tout à fait rebarrative, actuelle, et d'ailleurs pas mal de pays commencent à la prendre en compte devant les enjeux actuels des risques de l'uniformisation, de la globalisation et de la nécessité de la préservation de notre milieu. Et donc là, cette idée très novatrice avance dans le siècle. Et autre point sur lequel il était évidemment fondamental, c'est le grand philosophe de la communication. Ça, je vous apprendrai rien.
Hermès.
Qui fait d'ailleurs le fait que il est effectivement, il s'identifie dans le personnage d'Hermès. Consacre 5 livres aux éditions de Minuit, hein, qui s'appelle Hermès 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est l'homme, le penseur de la communication. Or, là encore, très novateur, parce que à un moment, où il n'est question, comme vous le savez, dans ces années 50-60, que de production. C'est-à-dire qu'on parle de mode de production capitaliste, socialiste, mode de production asiatique même. Mais lui dit non, notre monde, tout va se jouer dans le domaine de cette révolution douce, dit-il, qui est la communication.
Mais il a accueilli, par exemple, la naissance d'Internet avec un enthousiasme incroyable.
Exactement.
Il a changé d'avis.
Alors,
dernières interviews qu'il a données, il dit...
Vous avez raison. Mais d'abord, il faut dire que, grâce à ça, il connaît son best-seller.
La Petite Poussette. Connu
par tout le monde, qui est Petite Poussette, 300 000 exemplaires. Un best-seller. Alors, effectivement, avec Jean-Louis Gasset, avec lequel il a travaillé, Jean-Louis Gasset qui travaillait chez Apple aux États-Unis, dans la Silicon Valley, ils sont devenus plus sceptiques. C'est avec les fake news, les réseaux, et puis tout ce qu'ils ont pu constater d'écueil. Mais il avait tendance à dire, et je le suis sur ce plan, qu'il faut bien comprendre qu'il faut savoir perdre pour gagner. Et que c'est une leçon qu'il tire, par exemple, de Leroy Gourhan, qui dit, on est passé du quadrupède au bipède, on a perdu l'usage des mains dans le contact au sol, mais voilà, les mains ne servaient plus à rien, mais elles étaient labiles pour plein d'autres choses. Et donc, on a perdu une fonction, mais on a gagné potentiellement des milliers. Et donc, il n'a pas tourné le dos à ces révolutions technologiques. Au contraire, il disait, il se gaussait de ce qu'il appelait les grands-papas ronchons, comme Finkielkraut ou autres, qui, pour eux, considèrent que ces innovations sont une espèce de complot contre la culture.
Mais François Dos, comment est-ce que vous resituez dans son œuvre son grand thème, parce qu'il va y consacrer là aussi beaucoup de livres, du grand récit. Le grand récit qui vient de l'idée que, finalement, l'homme est apparu tardivement dans un monde qui a une longue histoire, qui l'a précédé.
C'est ça.
Et que l'homme peut évoluer de la même façon.
Oui, alors effectivement, il est venu, assez paradoxalement d'ailleurs, à thématiser le grand récit dans ses livres sur Minescence, Incandescent, etc., ses livres des années 2000, à un moment d'ailleurs où, par exemple, Jean-François Lyotard remettait en cause les méta-récits, les grands récits, justement, on disait qu'il n'y a plus que de petits récits. Les deux d'ailleurs... très trop long, mais ils ne sont pas incompatibles. Ce qu'il voulait dire par grand récit, c'est qu'il fallait, il le dit dès le départ, se décentrer. Et que l'homme n'était qu'une composante d'un univers, du vivant, dont il n'était qu'une faible portion. Quand on voit, il critiquait les historiens, en disant mais l'histoire, elle n'a pas commencé avec la naissance de l'écriture. Elle commence. Et puis, disait-il, et là vous êtes bien placé pour le savoir, les scientifiques maintenant peuvent dater la naissance du monde et donc 13 milliards d'années, si je ne me trompe. Donc voilà, maintenant chaque discipline peut dater et donc on peut construire un grand récit dans lequel l'homme n'est qu'une des composantes des relations entre humains et non humains.
Il était joyeux en public. Et moi, je l'ai connu assez. Enfin, je l'ai vu assez souvent. Il était toujours joyeux, blagueur. Séducteur. Comment vous expliquez le fait qu'il ait toujours paru de cette façon, alors même que vous le montrez bien dans votre livre, François Doss, il était travaillé par une noirceur fondamentale, si fondamentale qu'on peut se demander comment il parvenait à la cacher.
Ben justement, je pense que c'était un défi pour lui et que c'était un moyen. Cette sociabilité qui semblait harmonieuse, pour employer le terme d'harmonie qui est cher à son philosophe de prédilection qu'est Leibniz, effectivement, cette harmonie lui permettait de refouler ce qu'il appelait son sac de larmes. Il était justement, il disait écrire, aller de l'avant, etc. pour arrêter de pleurer. Donc il y a une espèce de flux comme ça, la dynamique des flux chez lui, c'est très très important, y compris sur le plan physique. Je pense à effectivement au Clinamen et puis à Lucrèce et bon à tout cela, mais c'est un moyen de tenir finalement, de tenir tout en évitant par l'écriture et par sa sociabilité et ce don de soi aux autres. Si je dis qu'il a fait tous les savoirs, le sous-titre de mon livre c'est la joie de savoir, qui lui va bien, je trouve, à lui et dans la transmission de ce savoir. Il est dans cette joie de savoir, mais il y a un savoir qu'il évite, c'est la psychanalyse. Là, il y a un évitement.
Est-ce qu'il a rencontré Clément Rosset?
Oui, absolument.
Puis, parce que je trouve qu'il ressemble à Clément Rosset, au sens où il a conscience du tragique, et la joie n'advient pas parce qu'on a des conditions d'être joyeux, mais au contraire, on est joyeux malgré tout.
Vous ne croyez pas si bien dire, puisque sur son bureau reconstitué à Agen, eh bien, vous avez une lettre de Clément Rosset.
C'est vrai?
À Michel Serre.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Alors, je ne me rappelle plus exactement le contenu, mais c'était une lettre de Rosset. Oui, bien sûr. Mais il y a cette part, et que vous avez bien dit dès le début de l'émission, de tragique et de... c'est là où il force le respect et l'admiration, parce que c'est une assaise, y compris de communiquer cette harmonie et ce visage harmonieux, ce goût du savoir, mais aussi de la peinture, de la musique. C'est un des points d'ailleurs qui m'a fait écrire ce livre aussi. C'est non seulement l'émission de Claude Maupomet à France Musique. Comment l'entendez-vous? Et là, il parle de musique.
J'ai une dernière question, François Doss. Vous avez travaillé sur la vie de Michel Serre. S'il revenait parmi nous, maintenant que vous le connaissez bien, qu'est-ce que vous lui diriez?
Chapeau.
Merci François Doss.
Merci à vous.
Je recommande la lecture de votre livre passionnant qui s'intitule donc Michel Serre, la joie de savoir. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son d'Ali Yaha et à la réalisation Luc Jean Reynaud.